Bonjour, on a fait nos 10 minutes. Alors, il faut savoir qu'il faudra qu'on libère la salle pour 16h15 parce qu'on a une autre conférence. Donc, je suis Thierry Pasquier de l'Espace Mendès France. Donc, j'ai un peu suggéré l'organisation ou la déclinaison locale du festival Le Temps des communs. Et donc, au niveau de l'Espace Mendès France, on aime bien le débat, mettre en relation les chercheurs et les publics, parler des expériences de terrain. Donc, je pense que c'était vraiment l'occasion. Donc, cette table ronde se place aussi dans le cadre de la Fête de la Science, donc, qui a lieu en ce moment. Vous pouvez, après la conférence, évidemment, continuer à discuter, mais aussi aller faire un tour dans le restant du bâtiment pour voir ce qui s'y passe. Donc, le festival Le Temps des communs, donc, c'est un festival francophone. Vous avez peut-être vu l'information, qui se déroule du 5 au 18 octobre. Avec l'idée de faire du lien entre plein d'expériences qui se rattachent ou pas à la notion de commun, mais où le partage, la gestion ensemble, la question de l'alternative se pose. Donc, ce qu'on a voulu avec cette table ronde, c'est discuter de tout ça, de ce que sont les communs, ce que sont les biens communs, la différence entre faire commun et bien commun, et parler d'expériences concrètes. Donc, je ne vais pas m'étendre. Il y a d'autres initiatives, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, qui se déroulent à Poitiers. Ce matin, j'étais à la rencontre régionale de Terre de Liens qui s'est associée au festival. Il se passe, on en parlait tout à l'heure avec Gilles, il se passe beaucoup de choses aussi aujourd'hui, donc ce qui explique aussi l'absence de quelques personnes qui avaient été sollicitées. Donc, on va pas. Ce que je vous propose, c'est le timing suivant. Donc, Gilles Kerr, qui est enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, va faire une présentation, proposer une définition peut-être ou un angle sur ce qu'est le commun ou ce que sont les biens communs ou les différences qu'il y a entre ces différentes notions. Ensuite, Michel Adam, qui est sociologue et aussi un gars du terrain, de la coopération, du mutualisme, etc., donc qui va nous parler de commun historique, entre guillemets, hein, parce que évidemment cette histoire-là se rattache à une longue tradition autour de l'irrigation, autour des pâturages, autour de la terre et autour de. Et nous parlera aussi de son expérience, donc à la fois des communs en Charente qui s'appellent les zéros, hein, et de son expérience militante, entre guillemets. Et après, on donnera l'expérience. Alors, on n'a pas mis tout le monde autour de la table, mais on va. Les gens se présenteront à plusieurs personnes qui ont répondu à mon appel, et notamment Jenny sur la question de la monnaie, donc du collectif monnaie locale complémentaire 86, donc qui travaille sur une monnaie complémentaire localement, donc est-ce qu'on parle de commun? Cyril Chessé de la filature à Ligugé, hein, où on se pose la question de faire ensemble et autrement pour reprendre une problématique qu'on a traitée il y a quelques jours ici. Pierre Toutant de la recyclerie créative des Regrattiers qui fête son lancement aujourd'hui, donc ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas l'absence de ce groupe-là, mais ils ont autre chose à faire et ils sont aussi associés au temps des communs. Donc c'est très bien aussi qu'il y ait des expériences décentralisées. Frédéric Moreau qui nous parlera des logiciels libres et des cartographies libres. Donc là, le logiciel libre, là, pour le coup, c'est un exemple très contemporain qui montre qu'ensemble, on peut faire vraiment des grandes choses, quoi. Donc, il nous parlera sans doute de Linux ou de ces choses-là. Et puis, quelques autres. Marie Legrand, autour de la question de la nature, de la biodiversité. François Chagnal, qui voulait parler aussi des Amis de la Terre. Voilà. Donc, on fera des interventions rapides. Et après, ben, je pense que vous aussi, vous avez sans doute des choses à dire sur le sujet ou des expériences à présenter. Et puis, on engagera le débat. Est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous avez déjà des remarques à faire? Bon, très bien. Bon, Gilles, je te laisse la parole.
Oui, donc bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer très, très brièvement quelques repères sur les communs avec un angle d'attaque qui est particulier, qui est celui de l'économie, puisque je suis économiste. Et en trois auteurs, qui sont trois auteurs qui, quelque part, ont bouleversé la science économique à des moments particuliers, mais qui ont la particularité de ne pas être économistes à la base. Donc, c'est déjà une première originalité, hein, c'est des changements dans la science économique qui viennent d'ailleurs. Alors, premier auteur. Gareth Hardin et la tragédie des communs, 1968. Gareth Hardin, qui est un écologue, un biologiste, hein, au départ, et qui va publier un article en 1968 dans la revue Science, qui va faire beaucoup de bruit et qui va un petit peu révolutionner une partie des théories de la science économique. Mais l'histoire que décrit Gareth Hardin remonte à beaucoup plus loin. C'est ce qu'on a appelé le mouvement des enclosures en Grande-Bretagne, un mouvement qui va se dérouler de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle. Le mouvement des enclosures, c'était en fait des champs qui n'étaient justement pas clos, c'était de l'open field, des champs très ouverts. Et ces champs étaient partagés sous un mode de gestion communautaire dont on va voir la descendance aujourd'hui. Et peu à peu, ces champs vont être privatisés, appropriés, pour y mettre notamment des moutons. Et vous avez ici une photo des champs actuellement en Angleterre. Et vous voyez ces milliers de petits murets en pierre qui ont été construits durant ces trois siècles et qui sont le symbole même justement de cet éclatement, de cette privatisation de la terre, de cet éclatement et de l'appropriation privée. Alors, ça c'est l'histoire. Comment va s'en emparer Gareth Hardin ? Gareth Hardin, qui a une vision en plus qui est un petit peu particulière à la fin des années 60 par rapport à la croissance démographique planétaire et qui pense qu'on va vers une catastrophe au niveau de la population, va s'emparer de ça en essayant d'en tirer un modèle, une expérience, une histoire. Et c'est ce qu'il va appeler la tragédie des communs. Donc vous avez la photocopie de la première page. C'est un très court article, hein, que je vous engage à le lire, qui fait 6 ou 7 pages. Qui est évidemment extrêmement critiquable, et je vais le critiquer, mais c'est assez intéressant parce que c'est tout à fait lisible, il n'y a pas de modèle, et il raconte une petite histoire. Et la petite histoire qu'il raconte, vous trouverez sur Internet, vous la retrouverez en employant les mots de l'article, mais sous forme de petite histoire autour des moutons, vous la trouverez sous forme d'une bande dessinée. Alors l'histoire qu'il raconte, c'est tout simplement ça, c'est qu'au départ, c'est des pâturages qui sont ouverts à une communauté, chacun est propriétaire de quelques bêtes, les amène sur le champ, et puis à tour de rôle, donc il y a des règles, hein, dont on va parler qui sont organisées pour organiser ce tour de rôle. Et ce que dit Hardin, c'est que quelqu'un qui a des visées de rentabilité propre, eh bien, va choisir d'introduire un mouton de plus sur le champ. Et puis peu à peu, tout le monde va faire pareil, va introduire un, deux moutons, etc. Et puis au bout d'un moment, eh bien, le champ va devenir complètement stérile. Et c'est ça la tragédie des communs, c'est que l'absence de propriété, qu'elle soit privée ou publique, conduit à une tragédie environnementale et économique. Alors, ça, c'est l'histoire de départ. Ce mouvement des enclosures et cette tragédie des communs, elle est doublement intéressante du point de vue de l'économie. Premier intérêt, c'est que quand on regarde un petit peu la vision traditionnelle de l'histoire économique mondiale, on vous dit ce mouvement dans l'agriculture, ce mouvement des enclosures, c'était une condition du pré-décollage industriel en Angleterre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle, s'il n'y avait pas eu cette révolution agricole et cette privatisation des terres au départ. Ça, c'est un petit peu la vision traditionnelle de l'histoire économique. Et puis, du point de vue de la science économique, une fois que vont se développer, pour ceux qui connaissent la théorie des jeux dans la science économique, on va reprendre cette histoire de Gareth Hardin, notamment avec le dilemme du prisonnier, et on va voir là une application de la théorie des jeux en matière d'économie de l'environnement, et c'est un article qui va avoir beaucoup de succès dans tout le courant de l'économie de l'environnement. Donc, premier exemple d'auteur qui n'est pas économiste et qui bouleverse quelque part la science économique. Deuxième auteur, qui est complètement l'opposé de Gareth Hardin et qui va justement s'opposer à cette petite histoire de la tragédie des communs, c'est évidemment Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, qui est donc américaine, qui est politiste, qui est diplômée de sciences politiques, qui est prof de sciences politiques aux États-Unis, et qui va donc... elle s'intéresse au mouvement des communs dès les années 60-70, mais l'ouvrage qui un peu symbolise son travail, c'est l'ouvrage de 1990 sur le renouveau des communs. Et vous avez ici la traduction française, hein, gouvernance des biens communs. Et ce que va faire Elinor Ostrom, c'est de dire, finalement, on a oublié cette histoire des communs, mais aujourd'hui, on en trouve partout dans le monde. On peut estimer qu'il y a 2 milliards d'habitants sur la planète qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par les communs. Donc, c'est tout sauf marginal et ça fonctionne bien. Et on n'a pas besoin soit d'une propriété privée, soit d'une propriété publique pour que ça fonctionne. Simplement, elle va donc étudier différentes expériences en matière d'agriculture, de pêche, de gestion de différentes ressources naturelles un peu partout dans le monde. Et à partir de ces descriptions très détaillées, parce que c'est ce qui est intéressant chez Elinor Ostrom, c'est qu'à chaque fois, quand elle s'intéresse à un cas monographique, elle détaille les personnes concernées, les règles, les territoires, comment ça fonctionne, depuis combien de temps ça marche, pourquoi ça marche, etc. Et elle essaye d'en tirer ensuite des principes communs sur des expériences qui culturellement, économiquement, territorialement sont complètement différentes et sur des ressources très différentes. Et donc, elle va dégager un petit peu 8 principes qui lui semblent essentiels pour le bon fonctionnement d'un commun. Premièrement, des limites clairement définies. Des limites clairement définies en termes de biens concernés ou de services concernés, et limites bien définies également en termes de population concernée. Deuxièmement, alors je suis très très bref, hein, volontairement, parce que justement le but c'est que dans les exemples on revienne sur ces aspects-là sous un angle plus illustratif et plus concret. Deuxième élément, c'est que le fonctionnement de chacun des communs est adapté aux conditions locales, c'est-à-dire que conditions locales sociales, culturelles, environnementales, c'est-à-dire que chaque gestion des communs, c'est un mode de fonctionnement qui est extrêmement fin, qui est extrêmement propre à chaque territoire, même si elle essaie de dégager des principes communs. On a vraiment, y a pas des règles uniformes, adaptables, transposables, etc. On a vraiment une finesse d'adaptation au territoire. Troisième chose, c'est des dispositifs de choix collectif, des dispositifs de décision, hein, de prise de décision, qui ne sont pas des dispositifs qui dépendent du capital détenu, puisqu'il n'y a pas de capital détenu, mais qui ne dépendent pas non plus de la règle majoritaire traditionnelle en démocratie, mais d'un mode plus consensuel, plus unanime, etc. Donc il y a des dispositifs de choix collectif qui sont de nature démocratique, mais qui ont une visée démocratique qui est beaucoup plus large que simplement la règle majoritaire. Quatrième aspect, c'est un mécanisme interne de surveillance, c'est-à-dire que ce que disait Gareth Hardin a quand même certains fondements. On peut avoir des abus dans l'usage des communs, donc il faut surveiller, il faut voir ce qui se passe, il faut faire en sorte que les règles soient respectées. Mais ce qui compte pour Elinor Ostrom, c'est qu'il y a une auto-surveillance. Il ne faut pas des surveillants extérieurs, il ne faut pas des policiers, c'est aux gens proprement concernés de gérer le système de surveillance. Ce système de surveillance, il va déboucher sur un système de sanctions qui est clair, qui est transparent, qui est défini, des sanctions qui vont être appliquées par la communauté, qui peuvent aller, la sanction ultime, c'est l'exclusion, mais qui sont un système de sanctions graduelles, je dirais éducatives. Il ne s'agit pas d'exclure la personne dès la première atteinte aux règles. Il s'agit vraiment d'envisager quelque chose de graduel dans un esprit éducatif. Le sixième principe, c'est des mécanismes pour résoudre les conflits, des systèmes d'arbitrage, et là encore des systèmes d'arbitrage qui sont souvent internes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un conflit? Qu'est-ce qu'on fait quand justement on n'a pas unanimité par rapport à une décision? Comment on règle les choses? Dans quelle temporalité? De quelle manière? Etc. Septième aspect, c'est que tous ces communs, pour qu'ils fonctionnent vraiment dans la durée, il faut qu'ils aient une légitimité reconnue par l'État. Ça ne signifie pas que l'État intervient dedans, mais simplement que l'État accepte ce système de propriété particulière et de gestion particulière, et l'accepte ni pour le faire basculer du côté du privé, ni pour le faire basculer du côté du public, c'est-à-dire que l'État accepte que cette propriété ne soit ni sur un mode capitaliste privé, ni sur un mode de la nationalisation ou de la collectivisation ou de la municipalisation, etc. Et puis le huitième et dernier aspect, le huitième principe est un peu de nature différente. C'est ce qu'elle appelle un système de gouvernance polycentrique, c'est-à-dire comment on va articuler les différentes expériences de communs en montant en termes de taille de territoire. C'est-à-dire, les communs sont très souvent à la base extrêmement locaux, très territorialisés sur des territoires petits, des quartiers, des villages. Ensuite, ça peut s'organiser au niveau régional, puis au niveau national, puis au niveau international. Et donc, elle essaye d'imaginer comment ces systèmes-là vont s'emboîter et comment la gestion des communs peut, tout en respectant le niveau local, peut aller jusqu'à la gouvernance mondiale de communs. Alors, ce qui m'intéresse, moi, parce que je ne suis pas un spécialiste des communs, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bouleversement que ça introduit, enfin, bouleversement qu'il faut modérer, qui est intéressant, c'est qu'elle a eu le prix Nobel d'économie. Alors, c'est un vrai faux prix Nobel, hein, je ne développe pas ici, les prix Nobel d'économie ne sont pas des vrais prix Nobel, mais bon, les médias les considèrent comme des vrais prix Nobel. Elle a eu le prix Nobel d'économie en 2009, simplement, c'est quand même très caractéristique, 2008, la crise financière, crise mondiale, et on est très, très inquiet à l'automne 2008, et puis comme par hasard, l'année d'après, on choisit un prix Nobel extrêmement alternatif à tous les niveaux, notamment, c'est la première femme prix Nobel d'économie. Le prix Nobel d'économie existe de mémoire depuis la fin des années 60. Vous avez eu, au moment où Elinor Ostrom a le prix Nobel, vous devez avoir eu 70 prix Nobel d'économie, parce qu'il peut y en avoir plusieurs par an. Sur 70 prix Nobel, il y avait 70 hommes. C'est la première femme, et d'ailleurs, c'est toujours l'unique femme qui l'a eue, de mémoire. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce n'est pas une économiste. Comme je vous l'ai dit, c'est une politiste. Ça aussi, c'est une originalité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres prix Nobel d'économie qui n'aient pas été de la base. Troisième chose, elle n'est pas du genre à faire des modèles, des mathématiques, etc. Et elle est complètement en dehors du courant libéral. Donc, c'est vraiment... c'est peut-être le prix Nobel le plus alternatif qu'il y a eu en sciences économiques depuis l'origine, à part quelques marxistes, enfin, pseudo-marxistes qui ont pu l'avoir. Je ferme la parenthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle bouleverse la science économique sur quatre aspects. Premier aspect, c'est sur la vision qu'on a de l'homme, de l'acteur économique, ce qu'on appelle l'homo economicus dans le discours économique dominant, qui est l'acteur économique qui est considéré comme raisonnant uniquement de manière égoïste, de manière isolée, de manière totalement rationnelle, de manière totalement matérielle, etc. Et donc, on voit à travers la gestion des communs que c'est plus compliqué que ça, qu'il peut y avoir de la coopération, qu'il peut y avoir de l'altruisme, et que c'est surtout ça qui est intéressant, ça peut conduire à l'efficacité. C'est pas qu'une question de justice sociale, c'est pas qu'une question de morale, mais on peut avoir de l'économique efficace en raisonnant sur d'autres bases que les bases traditionnelles de l'homo economicus. Deuxième aspect, c'est sur les modes de propriété. Pendant très longtemps, les économistes ont pensé que c'était soit propriété privée, soit propriété publique, soit la privatisation, soit la nationalisation, et que c'était les seuls modes de propriété efficaces. Et tout l'objectif d'Elinor Ostrom, c'est de montrer qu'on peut avoir un autre système qui est dur à caractériser. C'est peut-être pour ça que c'est une des difficultés, la notion de propriété commune, qui n'est pas non plus une propriété collective, qui n'est pas de la copropriété, qui est, je pense que tu reviendras là-dessus, une propriété indivise, transmissible de génération en génération, qu'on ne peut pas fractionner, qu'on ne peut pas s'approprier, etc. C'est très, très particulier comme mode de propriété. Et c'est quelque chose qui, du point de vue d'un économiste, est assez difficilement compréhensible. Troisième aspect, c'est l'idée que, par rapport aux expériences qu'elle développe, on ne peut pas raisonner uniquement avec des outils économiques traditionnels. Comme je vous l'ai dit, c'est des expériences qui sont adaptées aux conditions locales. Donc on est vraiment dans une vision large socio-économico-culturelle des choses. Et l'idée qu'on ne peut pas s'abstraire de la morale, les économistes croient qu'on peut raisonner de manière indépendante de l'éthique et de toute morale. Au contraire, Elinor Ostrom montre que l'éthique est importante et qu'elle est efficace économiquement. Et puis quatrième chose, c'est une remise en cause des outils traditionnels de mesure de la richesse. On est aussi... Et c'est exactement en 2009 que Nicolas Sarkozy demande à Stiglitz et Sen de mettre en place la commission sur les nouveaux indicateurs de richesse. Et pourtant, c'est Nicolas Sarkozy. Mais on est aussi en 2009. C'est pas un hasard. On a toute une réflexion autour de ce que c'est que la richesse d'un pays. Le PIB par habitant est insuffisant. On a déjà l'indicateur de développement humain avec Amartya Sen depuis le début des années 1990. Mais c'est encore insuffisant. Il y a toute cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que la vraie richesse. Et sur l'idée que de remettre en cause l'esprit économique traditionnel, qui est de dire toujours plus, c'est toujours mieux. C'est un petit peu ça, c'est cette idée que plus on a de biens, quantitativement, plus on est heureux, et que ça, eh bien, ça peut être mis en cause, et peut-être que la sobriété est aussi une voie vers le bonheur. Troisième auteur, et là ce sera extrêmement bref parce que ça permettra peut-être d'introduire les expériences dont on va parler. Le troisième auteur, donc vous avez l'ouvrage ici, c'est David Bollier. Alors David Bollier qui est, comment le définir, un écrivain, un militant, un blogueur, un consultant indépendant. Hein, donc lui, il est pas du tout économiste, il n'est pas non plus professeur comme Gareth Hardin ou comme Elinor Ostrom. Du point de vue de la théorie, je dirais, ça c'est mon point de vue particulier, il apporte pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vulgarisateur, un pédagogue, et je trouve que la manière dont il aborde les communs est assez intéressante. J'ai mis une définition en trois points, la réflexion, je dirais plutôt une caractérisation en trois points, parce que vous allez voir que ce n'est pas une définition des communs, c'est plutôt comment on peut caractériser les communs en trois éléments. Donc c'est ce que vous trouvez dans son ouvrage, où vous avez aussi des tas d'exemples qui sont développés, mais qui sont peut-être moins fouillés que ce qu'avait fait Elinor Ostrom, dans des cas de figure qui étaient évidemment plus ciblés sur les ressources naturelles. Donc voilà David Bollier et puis son ouvrage. Donc là, vous avez l'ouvrage en français et puis vous avez la page de couverture de l'ouvrage en anglais, l'ouvrage en français de 2014, celui en anglais de mémoire de 2013. Donc, quels sont les trois points qui, à mon avis, sont importants, les trois caractéristiques sur lesquelles il faut réfléchir? Et je pense que dans chacune des expériences, les personnes qui vont vous présenter leur expérience peuvent en partie s'appuyer sur ces éléments-là pour expliquer de quoi il s'agit. Premier élément, c'est la ressource. La ressource qu'on va gérer en commun. Cette ressource, ça peut être de trois types. Ça peut être une ressource finie et épuisable. Par exemple, le pétrole. Comment vous gérez l'utilisation du pétrole, en sachant que quand vous êtes sur une ressource finie, forcément, il y a de l'intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations suivantes ? Deuxième ressource possible, une ressource renouvelable, donc cette fois-ci, type, par exemple, forêt. Donc là, il s'agit de gérer pour que le renouvellement se fasse de manière correcte. On est sur un renouvellement de stock, donc il s'agit de ne pas épuiser la ressource. Et puis, troisième possibilité, ça peut être une ressource qui est complètement illimitée, du type, par exemple, logiciel libre. Mais cette ressource illimitée, on peut se dire, bon, n'y a pas de problème de consommation, d'utilisation, mais il peut y avoir des perturbateurs, des personnes qui sont malveillantes par rapport à cette ressource et qui peuvent mettre un petit peu le désordre dans la gestion de cette ressource. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est une communauté. Autour de cette ressource, il y a donc une communauté qui va être à la fois productrice des services de cette ressource et usagère de cette ressource. Et cette communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut être de taille extrêmement différente, avec des origines historiques extrêmement différentes, avec des modes de transmission extrêmement différents. Et donc, il s'agit de bien cibler quelle est la communauté. On n'est pas sur un bien qui est ouvert, un bien ou un service qui est forcément ouvert à tous. Ce n'est pas un bien public, c'est bien un bien commun. Et puis, troisième caractéristique, c'est qu'à chaque fois, il y a un ensemble de règles sociales, de règles d'utilisation, de décision, d'usage, de gestion commune, de démocratie, etc., qui sont fixées. Toute la difficulté, c'est que parfois, c'est des règles qui sont coutumières, qui ne sont pas forcément inscrites sur le papier, qui ne sont pas forcément juridiquement enregistrées. Mais ces règles, elles sont absolument essentielles pour le bon fonctionnement durable des communs. Et donc, ces trois caractéristiques vont permettre une autogouvernance du bien ou du service, une autogouvernance collective qui est responsable, j'aurais pu rajouter responsable et solidaire, et qui est fondée sur des arrangements durables. Donc voilà ce que j'apprécie dans l'ouvrage de David Bollier. C'est un petit peu ce cadrage de ce que peut être un commun, en sachant que les communs, ils peuvent être gérés, ils peuvent concerner des ressources, ils peuvent concerner des communautés, ils peuvent avoir des règles de fonctionnement qui sont extrêmement différentes. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va réfléchir autour de ces trois points-là. On va essayer de caractériser le commun autour de ces trois points. Donc je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Michel.
Merci. Une remarque, le livre de David Bollier, vous pouvez l'acheter, mais il est aussi, enfin c'est pas pour ne pas l'acheter, mais il est aussi librement téléchargeable en ligne sur le site de l'éditeur.
Oui, il est en Creative Commons. Oui.
On enchaîne, je pense. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis, avant d'avoir fait de la sociologie et des livres sur l'économie sociale et solidaire, je suis ingénieur. C'est important parce que ça m'a donné une autre culture qui n'est pas forcément inintéressante, même si je ne l'ai pas utilisée très longtemps. Donc voilà, mon intervention va être à partir du bas, à partir du sol, parce que c'est lié à des problèmes concrets, des problèmes complexes et au fait que j'ai plongé très tôt, par choix, pour revenir et vivre et travailler au pays, dans l'économie qu'on appelait à l'époque alternative, puis qu'on a appelée plus tard sociale et solidaire. Alors, mon introduction est simple, c'est quand on m'a posé la question de participer à cette table ronde des biens communs, je me suis dit, j'avais lu une énorme somme, mais je n'avais pas forcément fait le lien avec mes pratiques. Et donc j'ai dit, des biens communs, mais communs à qui ? Et je pense que la question est pertinente et qu'il faut constamment se la poser, on l'a vu ici à travers un certain nombre de choses. Alors dans un premier temps, de façon très pragmatique, moi j'en ai trouvé trois, c'est les biens publics, les routes, les écoles, la sécurité sociale, etc., toutes ces choses qui font que la société tourne, fonctionne. Ce qui fait que ceux qui disent, comme Margaret Thatcher, qu'elle n'existe pas, sont des rigolos. Alors ensuite, et j'ai écrit un peu un texte pour ne pas être trop long, les biens privés. Totalement privé, c'est la copropriété familiale, la copropriété de propriétaires, de locataires, mais c'est aussi la copropriété d'actionnaires d'une entreprise ou dans l'économie sociale de sociétaires, qui sont bien des actionnaires. Et puis, il m'a semblé qu'il y avait des biens semi-privés. Alors, je vais préciser ça. Donc d'abord, les biens communs impartageables de l'économie sociale et solidaire. Si on doit la définir d'une façon avec un seul mot, ce qui est un peu réducteur, mais c'est le mot impartageable que je prendrai. En effet, il y a, dans ces différentes expériences que j'ai vécues et que je vais lister, il y a toujours eu des éléments matériels, des stocks, des murs, des machines, etc., des portes, des restaurants, etc., et puis des éléments immatériels. Et par exemple, les éléments immatériels auxquels on s'affronte très tôt, c'est le fonds de commerce. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce ? En quoi ça a de la valeur ? C'est totalement immatériel. Le nom, etc., bon, la chalandise. Bon. Alors, Donc je reviens sur ce qui définit notamment l'économie sociale et solidaire, hein, c'est que les actifs, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui a pu être créé par le travail collectif, est impartageable. Ce qui faisait dire à Rocard d'ailleurs que l'économie sociale, une entreprise d'économie sociale, est beaucoup plus une entreprise qu'une entreprise classique qui n'a que des actionnaires. Il y a un droit des sociétés commerciales, il y a un droit du travail, mais il n'y a pas de droit de l'entreprise en France. Le seul lieu où il y a vraiment de l'entreprise, c'est l'économie sociale et solidaire. Alors, donc, les actifs sont impartageables, mais si on prend du capital dans une coopérative, comme je l'ai fait au moins deux fois, on a le droit de repartir avec son capital, sous réserve d'un certain délai, mais il n'est jamais actualisé à la valeur qu'a pris l'entreprise. Il est toujours à la valeur qu'il avait quand on l'a apporté. Donc, on ne peut pas s'enrichir par les apports qu'on a fait à l'entreprise. C'est la règle du jeu. Donc, ça a consisté quoi pour moi ? Six expériences que je liste rapidement. Une librairie différente, le texte libre, qui a d'abord été le fonds de commerce créé par ma femme. C'était elle, la créatrice. Moi, j'y ai travaillé plus tard. Elle est devenue ensuite Association 1901. C'est là où j'y ai travaillé. Et puis, peu à peu, le fonds de commerce a été loué à l'Association 1901. Et à la fin, l'association a fini par nous le racheter en tant que tel. Même si ça s'est fait avec une certaine, certain conflit sur qui a fait quoi dans le travail. Là, les règles n'avaient pas été forcément bien établies au départ. Il y a eu un café-restaurant, où j'ai travaillé aussi pendant un an, coopératif, le pas de côté. Donc là, le fonds de commerce n'existait pas. Il a été créé par son exercice au sein de la coopérative. Au bout de deux ans, on a considéré que le nom, la clientèle, l'image, etc., était la création d'un fonds de commerce. C'est le droit français. Ensuite, il y a eu cette coopérative. Donc, on est dans les années 75. Hein. C'était une société anonyme à ça. Coopérative de consommation. On a pris le statut le moins adapté, le plus lourd, mais on n'y connaissait rien. Donc, il a fallu brasser. Voilà, elle a eu quand même jusqu'à 90 coopérateurs, dont le plus gros banquier de la place, qui venait nous soutenir clandestinement et qui nous a appris la gestion. Ensuite, il y a eu, un peu plus tard, une SCOP d'ingénieurs, dont j'ai été un des fondateurs, où là aussi, on cotisait un peu au capital tous les mois, jusqu'à ce qu'on ait à peu près tous la même somme de capital, et dans laquelle on a testé, entre autres, 5 systèmes de salaire. Jusqu'à finir par trouver un qui marchait à peu près. Là, c'est une SARL SCOP, hein, donc vous voyez, là, toutes les formes juridiques possibles. Et après, deux associations 1901, plus classiques où il n'y a pas de capital, mais il y a bien de la prescriptive, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a une richesse créée, une richesse financière, hein, monétaire, on n'appelle pas ça le capital, mais en fait, c'est de fait un pseudo-capital. Donc, une boutique de gestion, une des premières boutiques de gestion à l'époque, qui s'appelait Épicentre, la SCOP s'appelait Épiscope. Et enfin, y compris à Poitiers, à partir de 92, l'Union régionale des entreprises d'insertion, qui s'appelle IRIS, qui est un réseau aujourd'hui qui a jusqu'à une dizaine de salariés, qui en a 6, et dans lequel, évidemment, il y a un actif, à la fois matériel et immatériel, non négligeable. Ça, c'était mes 30 ans pas faciles dans l'économie sociale et solidaire. Depuis 2006, je suis donc en retraite de ces aventures-là. Et donc, dans la vallée de l'Antenne, près de Cognac, au nord de Cognac, là, entre Cognac et Saint-Jean-d'Angély-Oulnay, j'ai plongé dans une petite association que j'appelais Antenne Nature, Loisirs, et on a ajouté rapidement Patrimoine, en voyant que nature et patrimoine se mélangeaient beaucoup. Alors, c'est quoi le but ? C'est la valorisation, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine sous toutes ses formes dans la vallée. Voilà, dans l'esprit du développement durable, y compris d'ailleurs le patrimoine naturel, parce que les gens distinguent souvent artificiellement nature et patrimoine. Alors que dans les critères de l'UNESCO, de classement, si vous les regardez, vous verrez que les derniers critères, le 8 et le 9, il y en a 10 actuellement, sont le patrimoine naturel, bien évidemment. Donc on a une action en réseau, on est plus de 200, et alors, quand on m'a demandé de réfléchir sur les biens communs, je me suis dit, en fait, cette question nous interpelle par trois entrées. Le passé, il n'y a plus de communaux, de pâturages communaux dans la vallée. Mais très rapidement, un peu d'ailleurs grâce aux amis des logiciels libres, on a été amené à découvrir qu'il y avait des zéros. A-I-R-E-A-U-X. Qu'est-ce que c'est que les zéros ? On trouve ça aussi en Normandie et on trouve ça sous le nom de Erial dans les Landes. Ce sont simplement des propriétés collectives du hameau, c'est-à-dire du village, pas de l'ensemble de la commune. On a lancé une enquête dans la vallée de l'Antenne, on en a déjà repéré une quinzaine, et le maire d'une des communes très actives et qui vient de se retirer il y a un peu plus de temps, nous a envoyé la liste complète des zéros et les difficultés qu'il a eues pour essayer de les récupérer pour la commune, alors que les habitants souhaitaient les garder uniquement pour eux, comme les propriétaires autour de l'Hérault. Hérault, d'ailleurs, qui vient du latin area, qui sans doute area, hein, une aire, c'était sans doute les lieux pour lesquels on s'unissait pour battre le blé, pour avoir des travaux agricoles. Donc, propriété collective de village. Voilà. Sur le cadastre, aujourd'hui, dans le droit français actuel, on parle de biens sectionaux de la commune et non pas de biens communaux. Très bien. Et on trouve des rues, des places, je passe. Ensuite, on a découvert une deuxième chose, c'est que les chemins ruraux d'une commune, puisque moi j'habite une commune rurale, sont une propriété privée de la commune. Ça veut dire que dans les communes rurales, et donc hein, pour lesquelles nous sommes électeurs, dès qu'on est propriétaire ou locataire et qu'on y habite, il y a à la fois une propriété publique de la commune, par exemple les bâtiments de la commune, le budget, etc. Mais il y a une propriété privée qui sont les chemins ruraux. Et grosse découverte, on a résumé dans un petit dépliant en la protégeant les chemins, c'est que ces chemins ruraux sont une propriété privée de la commune. C'est curieux, hein, propriété privée de la commune. C'est-à-dire qu'elle peut les vendre. Si un propriétaire agriculteur a deux terrains d'un côté, il va dire, ben, il va demander à le racheter et il va la supprimer, ce chemin. Ce qui sera une perte pour les autres citoyens, pour s'y promener, par exemple. Mais et en général, ça marche, et c'est sans doute un peu dommage. Et en plus, la commune, comme c'est un bien privé, n'est pas tenue de l'entretenir. Je passe, on y reviendra. Le présent aujourd'hui, le présent dans notre vallée, ben, c'est qu'on est devant une rivière qui nous a réunis, l'Antenne, vallée de l'Antenne, là, 48 km, avec les rives, avec les affluents, ça fait 280 km. Alors, c'est une rivière toute petite, donc de première catégorie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas domaniale. Les rives des deux côtés sont privées et le fond de la rivière est privé jusqu'au milieu. D'accord ? À charge pour les propriétaires de l'entretenir. Sauf que l'eau et les poissons sont un bien public. Vous imaginez la complexité de la chose. On pourra y revenir. En général, les pêcheurs ont obtenu de ces propriétés privées qui vont jusqu'à l'eau le droit de passage. Les chasseurs, rien n'est écrit. Mais c'est pratiqué. Les randonneurs, pas du tout. Donc là, j'ai découvert aussi que ces pauvres randonneurs, qui sont arrivés beaucoup plus tard que les pêcheurs et les chasseurs, hein, c'est quasiment le préhistorique, et pour l'instant, ils n'y ont pas beaucoup de droits. Alors on négocie, mais voilà. Ça, c'était le présent. L'eau, les poissons. Le futur. Eh bien, le futur, c'est, je pense, moi, et puis nous pensons dans ANLP, la propriété privée va devoir composer avec des limites. Et je ne peux pas ne pas vous citer deux économistes que j'aime bien, Gaël Giraud et Cécile Renoir, qui disent dans ce très bon livre chez Champ, 20 propositions pour réformer le capitalisme, je crois que c'est au chapitre 5 ou 6, ils écrivent ça, la contrainte écologique remet en question le concept même de propriété privée, dans son acception romaine, usus fructus abusus, hein, j'en use, j'en ai les fruits et je peux en abuser. Il n'est plus permis, ajoutent-ils tous les deux, à quiconque d'abuser de son jardin comme il l'entend. Il s'agit de revenir à une compréhension de la propriété privée comme source de devoir et subordonnée à sa contribution au développement collectif. Vous voyez, on n'est pas encore au bien commun, mais on est déjà dans quelque chose qui tire vers le haut, enfin, vers quelque chose de plus collectif, la propriété privée. Je termine. Alors, sous forme de trois propositions, là aussi très pragmatique et à débattre, mon sentiment personnel, c'est qu'il ne peut pas ne pas y avoir de bien commun. L'air que nous respirons n'est pas partageable. Pas plus que les éléments majeurs de la nature, hein, au sens de la physis des Grecs. Le climat, les océans, l'atmosphère, la stratosphère resteront nécessairement des biens communs. On imagine difficilement autre chose. Mais en même temps, j'ajoute aussitôt le contraire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir que des biens communs. Je pense, moi, et ça ouvre le débat, que chacun a droit à un espace privé intime. D'où une troisième idée. Alors, bien sûr, avant de la troisième idée, c'est à nous de construire des coopérations souples et pertinentes entre les différentes formes de la propriété et les usages. On va y venir. Donc d'où la troisième idée que je tire un peu de ma fréquentation de la pensée complexe dans un réseau où il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus avec Morin et Lemoigne et puis d'un livre que j'ai fait sur réinventer l'entrepreneuriat pour refonder l'entreprise. Mon histoire m'a montré qu'il y avait trois façons de créer une entreprise. On peut la créer pour soi, à son compte. On peut la créer pour nous, c'est l'ESS. Et on peut la créer pour eux. C'est toute l'insertion par l'économique qui a été vraiment faite pour d'autres gens bien incapables de la créer. Alors, je vais utiliser ce modèle et leur faire questionner les biens communs. Le bien commun, c'est un « nous ». C'est quelque chose qui est à nous, autrement dit à tous. Mais en latin, méfions-nous, il y a deux mots pour dire le mot « tous ». Il y a « totus » et « omnes ». Je crois d'ailleurs que c'est un linguiste danois qui nous a amené ça. « Totus », ça veut dire la totalité indivisible et absorbante de ces éléments, au risque évidemment du totalitarisme. D'accord ? « Omnes » désigne un ensemble où chacune et chacun existe encore dans ses différences. Ce que Edgar Morin appelle l'esprit de la vallée. Tous les ruisseaux convergent pour faire une rivière, mais ne disparaissent pas. Ne disparaissent pas. D'où mon hypothèse, hein, ça va me servir de conclusion, c'est je pense qu'un bien commun a besoin d'une dimension ternaire. À la fois pour moi. Si l'air est un bien commun, c'est moi qui le respire, sinon je suis mort. Donc je ne peux pas ne pas le respirer. C'est à la fois pour nous, deuxième dimension, pour notre famille, notre communauté, notre terroir, notre pays, notre planète, avec tous les niveaux complexes à agencer qu'a évoqué Gilles. Et enfin pour eux, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas là, soit parce que c'est les étrangers, les voyageurs, les générations futures et même les générations passées. Ils ne sont plus là, mais ils nous ont apporté des choses, des savoirs, des savoir-faire, des éléments de culture qui sont un bien commun. Alors à partir de là, chaque bien peut peut-être devenir à la fois vraiment commun et personnel. D'où une petite image, si tu veux la montrer. Hein. qui va nous permettre, on va revoir le sous forme d'un schéma, hein, les trois dimensions. Voilà. Tu peux lancer le diaporama. Vas-y. Alors ça, c'est j'agis pour moi, hein, donc je fais preuve d'autonomie. Tu peux continuer. OK. Nous agissons pour nous, on crée une coopérative, une association, c'est le lien, le partage. Très bien. Et enfin, nous agissons pour eux, et c'est l'attention, c'est la sollicitude, c'est le care, etc. Alors j'ai tendance à penser que la notion de bien commun serait au cœur de ces trois démarches. Et ce modèle, qui n'est qu'un modèle, donc réducteur, peut être un moyen sans doute de détecter les pathologies du bien commun. Donc là, j'ouvre le jeu, vous continuerez, hein, en appliquant la règle des contraires. Si ce n'est pas, si c'est pas à moi, c'est à qui? Eh bien, dans les pays de tradition catholique, d'après Max Weber, c'est à personne. Alors qu'il semblerait que dans les pays de tradition protestante, si ce n'est pas à moi, c'est à tout le monde. Grosse différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ma vallée, j'ai l'impression que les décharges sauvages continuent de pulluler. Si ce n'est qu'à moi, bah, c'est le monde de l'avidité égoïste, l'utilitarisme, etc., en cours d'expansion, je ne détaille pas. Si c'est un nous exclusif, attention, c'est l'exclusion de ceux qui ne sont pas comme nous. Si c'est uniquement pour eux, ça devient une pratique de la sainteté, exceptionnelle, mais pas très généralisable, etc., etc. À vous de continuer. Merci.
Merci, Michel. Bon. On va passer donc à des expériences concrètes qui commencent, alors.
Michel, je ne t'avais pas vu depuis longtemps. Hein. Et Gilles, je vous ai vu au Césaire il n'y a pas longtemps. Donc Marie Legrand, je suis vice-présidente de Vienne Nature depuis 3 ans, membre de Poitou-Charentes Nature, donc essentiellement investie dans le milieu associatif. Donc moi, mon exercice, c'était un peu parler du lien, les communs avec la nature. Et dans le texte que m'a envoyé M. Pasquier, j'ai vu la nature, le bien commun, c'est l'eau, l'air et la biodiversité, entre autres. Alors, moi, j'ai fait une recherche, mais je me suis mise au boulot il y a très peu de temps. Donc, j'ai trouvé pratiquement tous les livres de Gilles Clément, et je vais vous lire une intro d'un livre qui s'appelle « Le salon des berces ». Les plantes s'exposent, les animaux se nichent, nous, humains, avons besoin d'une maison. Une énorme prothèse sans laquelle nous serions handicapés, malades ou simplement velus. Cette incongruité fabrique des villes, cancer de la terre. Le plus grave, dit-on, celui qui attaque la peau, les plantes, les animaux, les roches, l'eau dans l'air. Que faire? Accepter l'errance, le ciel d'intempéries, l'incertitude, vivre sous la toile, en bédouin? Encore faut-il disposer d'un désert. Rien de tel en mon pays. Devant moi, la chlorophylle à perte de vue, l'espace ordonné des cultures, des forêts, les routes et leurs injonctions, les mots partout écrits, les limites, le cadastre, les clôtures, les murs, et enfin, la propriété. Donc j'ai bien aimé cette intro pour parler du sujet de la nature. Alors, en vrac, je ne connaissais pas trop la commande, mais vous me demandez de parler de l'eau, de l'air, la biodiversité. Alors, je ne sais pas par quel bout commencer. Combien de temps j'ai Oh non, bon, je vais tenir avant. Hein. Première chose à considérer, c'est la question du prix de la nature. Parce que deux conceptions totalement opposées s'affrontent sur le prix de la nature. C'est une notion contestée dans son principe. Il y a d'une part les tenants de l'écologie profonde, que je critique pas du tout à titre personnel. Hein. La nature aurait en soi une valeur intrinsèque, valorisée pour elle-même en tant que fin en soi. Lui donner un prix est une hérésie. À l'inverse, les tenants du néolibéralisme estiment qu'une gestion efficace des ressources naturelles passe par le jeu des mécanismes du marché. Et là va entrer la question de la compensation, entre autres. Compensation, par exemple, la ligne LGV qui traverse notre territoire avec des impacts terribles a fait l'objet de compensations importantes. Les économistes libéraux estime que le prix de la biodiversité et des services écosystémiques doit être intégré dans les coûts économiques des infrastructures. Affecter un prix à un système écosystémique est un moyen pour le protéger. Parallèlement, attribuer un prix à des nuisances écologiques telles que les émissions de gaz à effet de serre permet de les réduire en les pénalisant. Donc, il y a toute la question du financement, mais je vais passer rapidement là-dessus. Donc, j'avais préparé un topo là-dessus, mais je ne veux pas vous embêter avec tout ça. J'y arriverai dans le débat. Mais moi, je tiens quand même à la théorie de ceux qui défendent la beauté, la valeur culturelle de la nature en tant que telle, sans entrer dans des mécanismes économiques de compensation, d'entrer en jeu du marché libéral, dans le prix de la nature. Et je voulais citer un exemple. Au niveau national, récemment, s'est créée une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle la CDC Biodiversité, qui propose un service largement appointé de compensation quand il y a dommages faits sur la nature. Alors que ce travail était largement fait auparavant par des associations d'intérêt public telles que le CREN. Donc, peu à peu, on voit se mettre sur le marché des systèmes libéraux qui ont un intérêt financier pour se mettre à la place de systèmes existants auparavant, tels que les conservatoires et d'autres, qui faisaient parfaitement ce travail à des coûts nettement plus faibles. Sur l'eau, voilà ce que j'ai à dire sur l'eau. Je n'ai pas travaillé beaucoup sur l'air, je vous dis entre parenthèses. Hein. Sur l'air, je n'ai pas eu le temps. Hein. Donc les conflits d'usage de l'eau sont extrêmement importants en Poitou-Charentes. Conflits d'usage entre irrigation principalement et protection du patrimoine naturel et usage d'alimentation en eau potable. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Quand vous voyez les conflits d'usage de l'eau dans le Moyen-Orient, sur les rives du Gange, en Afrique, nos problèmes de conflits d'usage de l'eau en Poitou-Charentes semblent être terriblement dérisoires. Alors j'ai trouvé un exemple de partage sur la réflexion sur l'usage de l'eau qui me paraît très pertinent. C'est le PTB Charente qui a déclenché en 2013 un travail auprès d'un panel d'une quinzaine de citoyens qui a été mené sur une durée relativement longue, travaillant sur le SAGE de la Charente entre mars et juin 2013, accompagné par l'IFRE. Il a donné naissance à un avis d'un panel citoyen sur le fait de concilier les différents usages de l'eau. Donc c'est relativement rare chez nous et je voudrais le citer vraiment en exemple.
Le PTB, dis-nous ce que c'est.
Eh bien, ce panel de citoyens a réfléchi pendant des mois, accompagné par une structure de professionnels l'IFRE, sur comment proposer ensemble un usage partagé de l'usage de l'eau. Le PTB, l'établissement public territorial du bassin de la Charente, qui est une institution officielle. Un deuxième exemple qui me paraît très intéressant, alors sur la biodiversité, alors là, c'est une conférence de 3 heures. Hein. Mais j'ai pris l'exemple des jardins partagés. Alors, les jardins partagés existent depuis longtemps. À Poitiers, il y en a beaucoup d'exemples. Mais ailleurs en France, il y en a beaucoup d'exemples. Donc l'idée, c'est comment voir plus souvent le sourire des voisins, humer l'air du jardin avant de respirer l'air du métro ou des voies de circulation rapide ne peut faire que du bien. Faire jouer les enfants, leur offrir une alternative aux jeux vidéo, pour connaître les grands-pères qui connaissent le nom des oiseaux qui vivent autour de nous. Et parce que vous allez vous lancer dans une observation de la vie sauvage qui va vous étonner. Donc ces jardins partagés sont à mon sens un exemple magnifique du temps des communs qui existe, qui est à venir, qui ne fera que se développer. Ils sont souvent situés sur des terrains municipaux, trouvent leur place aussi sur des terrains privés. Ils sont aménagés, animés par des amis, des voisins, des habitants d'un même quartier et ont une vocation d'être accessibles à tout public.
Et même des écoles,
oui. Merci Michel, des écoles. Et puis enfin, j'ai une dernière idée de témoignage sur le sujet de, du partage des données naturalistes qui concernent particulièrement notre association Vienne Nature, Poitou Charente Nature, la LPO et tous ceux qui sont des producteurs de données. C'est un exemple magnifique de partage à destination du plus grand public de données naturalistes qui est souvent gratuit mais qui pose problème. Pourquoi il pose problème ? Parce que les associations naturalistes qui font ce travail de terrain en repérant les odonates, les batraciens, la botanique, etc., le font sur leur propre temps de travail, ont ces données, et souvent, bien sûr, ont l'intention de les monnayer contre argent comptant auprès de porteurs de projets qui ont besoin de ces données. La difficulté est que l'État n'a pas reconnu suffisamment le rôle d'utilité publique de ces récolteurs de données qui sont des biens communs, et elles sont obligées maintenant, ou souvent, de les monnayer parce qu'elles n'ont pas suffisamment de financement pour survivre à leur travail de récolte de données. Cependant, il y a deux exemples qui sortent un peu du lot en Poitou-Charentes. Vous avez le réseau partenarial des acteurs du patrimoine naturel qui compte 40 producteurs de données qui existent depuis 10 ans, qui est porté par l'Observatoire régional de l'environnement et qui récolte des données naturalistes à titre gratuit et les met à disposition du public sur le site de l'ORE. Et vous avez en cours un nouveau système qui est un peu K1KA, qui est émis par le niveau national, par l'État, par les DREAL, qui s'appelle SINP, le système d'information sur la nature et les paysages, qui tente à récolter aussi au niveau national des données naturalistes et qui est loin d'être abouti. Toujours pour la même raison, les producteurs de données ont souvent le réflexe de les monnayer et pas forcément de les donner directement.
Merci Marie. Donc, il faut les payer au moins une fois, c'est ce qu'on dit. Ça m'incite à rebondir sur nos cartographes libres ou les gens du logiciel libre.
APP3L, association de promotion de Linux et des logiciels libres sur le Poitou. On ne fait pas que de l'informatique, on fait aussi du numérique, on va dire, au sens de la production de données, de l'art libre, de l'art numérique libre, ou des connaissances libres, etc. Je vais pas mal rebondir sur tout ce qui a été dit déjà avant. Déjà sur les trois dimensions du bien commun, le pour moi, pour nous et pour eux, bien sûr il est là. On est sur des communs qui sont numériques, qui sont renouvelables potentiellement à l'infini. Donc on est vraiment beaucoup sur du pour nous d'abord. Parce que quand on produit quelque chose, c'est généralement ce qu'on y a un intérêt. Et qu'en plus, il y a un effet collatéral qui est très intéressant. C'est que ça sert à tout le monde derrière, quoi. Le pour nous est aussi très intéressant parce que les communautés servent à réguler, à améliorer la qualité des données, tout ça. Au niveau des ressources, donc on est plutôt sur une ressource qui est à la fois finie et limitée, c'est-à-dire que c'est une ressource finie parce qu'on va avoir quelque chose qui est forcément avec un nombre de pages, avec un nombre de pages de documentation, de lignes de code qui est fini, c'est pas infini mathématiquement. Et puis par contre, qui est illimité au sens des usages, c'est-à-dire qu'on est sur des communs qui vont être à un coût marginal nul, ou quasi nul, vraiment. Donc la reproduction du bien ne coûte quasiment rien, puisque c'est juste une copie de fichier ou des choses comme ça, ou une transmission sur Internet. Donc voilà, c'est une dualité finie et limitée qui est assez intéressante là-dessus. Il y a la dimension communauté qui est selon les projets, selon les communautés, entre guillemets, qui est plutôt axée sur les producteurs ou sur les usagers. Il y a des fois, c'est les deux. Mais il y a vraiment des biens communs. Par exemple, les projets de logiciels libres, parfois, sont vraiment axés sur la communauté des contributeurs et pas forcément sur celle des usagers. Donc voilà, là, on est sur quelque chose où il n'y a pas forcément relation entre les deux vases. C'est pas, c'est pas antinomique. Et puis, ben, on a un ensemble de règles sociales aussi, qui peuvent être assez lâches, du fait aussi que c'est un... que ce sont des données qui peuvent être sauvegardables. Donc s'il y a une dégradation, de toute façon, on a juste à rétablir les versions d'avant. On ne peut pas les effacer définitivement, ou alors il faudrait aller cramer des data centers, ça commence à être compliqué. Voilà, donc au niveau des règles de modération, on peut avoir des choses qui sont assez lâches, qui ne sont vraiment pas très compliquées. Donc après, je vais faire un peu le lien entre le numérique et puis les autres domaines à côté. Donc on vient de parler de nature. Le lien entre numérique et nature, notamment, on a parlé de production de données en fonction de la nature, Tela Botanica, une communauté de botanistes, communauté qui produit de la donnée libre de botanique de qualité, puisque c'est généralement des amateurs passionnés qui font ça, et avec des modes opératoires très intéressants. Donc Tela Botanica, pour ceux qui ne connaissent pas. Lien numérique et patrimoine, on va avoir des initiatives de la fondation Wikimedia, qui édite entre guillemets Wikipédia, comme Wiki Love Monuments, qui est un concours photographique qui a lieu tous les mois de septembre de chaque année pour illustrer les monuments historiques de chaque pays ou ceux qui sont enregistrés à l'UNESCO de photos. En plus, c'est un concours photo, donc on a généralement des belles photos qui sortent. Donc on a là à la fois le patrimoine et un enrichissement. À la fois une numérisation du patrimoine et un enrichissement du patrimoine qui existe en physique par un regard numérique, avec voilà, des photographes quasi pro ou semi pro qui vont faire des photos très très intéressantes qui illustrent très bien ça. Par contre, sur la relation entre patrimoine et numérique, il y a quand même quelque chose qui est aussi intéressant, c'est qu'on a un mouvement, on a l'impression qu'on va vers plus de commun, vers peut-être plus de mise en commun du patrimoine. Y a des initiatives comme la numérisation des documents anciens qui parfois peuvent faire que la numérisation entraîne que le document numérisé revient sous un régime de copyright et du coup n'est plus accessible. C'est un bien commun. Il a été élevé dans le domaine public. Le fait de le numériser, certaines personnes, et la BNF l'a fait, s'approprient le droit au sens, on a mis de l'argent dedans puisqu'il fallait bien le faire, donc il est de nouveau à nous. Voilà, donc ça c'est une... Là on revient sur le thème d'enclosure et c'est... Et là effectivement c'est très intéressant et ça me permet effectivement d'introduire le côté financement qui est aussi du coup là quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que la passion et le volontariat n'a pas besoin de financement. Mais par contre, derrière, il y a quand même des projets à mener, il y a quand même des choses comme ça à mener. Et puis, donc, par exemple, sur un projet comme Wikipédia, ou Wikipédia, je ne vous le présente pas, hein, OpenStreetMap, qui est une cartographie libre, donc complètement libre, avec beaucoup d'informations dedans, qui peuvent aller de tout ce qui est accessibilité des bâtiments, bien sûr tout ce qu'on voit dans la rue, etc. J'en étais où ? Je sais plus. Oui, donc voilà, donc sur ces choses-là, au niveau financier, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de financement. Par contre, derrière, sur le commun numérique, qui est le logiciel libre en ensemble, souvent, pour arriver à une qualité de logiciel, là, on arrive quand même sur des besoins qui commencent à être plus professionnels. Et là, du coup, il y a la question du financement qui se pose. Et puis, il y a des nouvelles choses qui commencent à arriver. Donc, il y a des développeurs qui préconisent beaucoup le passage à un salaire de base pour tout le monde, histoire de pouvoir vivre du logiciel libre sans avoir à se poser de questions et pouvoir faire un bien commun, enfin pouvoir produire un bien commun qui n'est pas forcément monnayable immédiatement mais qui va être monnayable à 100 ans, 10 ans, voilà. Et puis autrement, mais bien sûr, tous les mécanismes de crowdfunding aussi qui permettent de financement participatif, qui permettent de faire participer un public pas forcément compétent dans un domaine mais passionné ou que ça intéresse à la production des résultats par le financement de personnes qui vont le réaliser. Voilà, merci.
C'est vrai que pour le logiciel libre, on a tendance à dire qu'il faut le payer une fois et après, il appartient à tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Jenny, tu veux intervenir ?
Oui, je vais intervenir parce que je pense que j'ai de la fièvre et que je vais rentrer. j'interviens pas seulement au nom des amis de la Terre, mais ça fait 40 ans que je me bats pour les communs. Et je peux dater le début de cet engagement à une convergence entre les communs et puis le plus intime. parce que bon, j'étais au bord de la Méditerranée. J'attendais mon deuxième fils, c'était paradisiaque. Et puis à la surface de la mer, j'ai vu un petit film très ténu des molécules de pétrole. Et là, ça a été le désespoir. Je me suis couchée, je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus mettre au monde mon enfant. Et il a fallu que mon mari me dise... lève-toi, on va se bagarrer ensemble. Donc, je pense que les communs et l'intime, c'est très, très, très lié. Et oui, je ne sais pas, il y a une réflexion là. Bon. Donc, depuis tous les sujets, il a fallu que donc, je rejoigne un groupe, en effet, une communauté, un groupe de personnes qui se disaient concernées par ces communs, et ça a été, en effet, les Amis de la Terre. Mais tous les thèmes de campagne sont des thèmes communs. En particulier le thème actuel, le climat, c'est vraiment un thème commun. Je ne comprends pas la réaction des gens qui n'hésitent pas à mettre à fond la clim, même dans leur voiture. On les voit maintenant s'arrêter pour quand ils attendent leurs enfants à l'école. Ils restent dans la voiture, ils mettent la clim, comme en hiver, ils mettent le chauffage. C'est la nouvelle fonction de la voiture. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils augmentent aussi... Je ne sais pas, mais il y a des gens qui... Oui, je ne sais pas, on pourrait peut-être parler chacun son tour. Marie, ce que tu dis m'intéresse, mais c'est pas si tu parles en même temps que moi. La clim, pour moi, c'est un exemple emblématique. On a, en mettant la clim, on envoie des gaz à effet de serre et on envoie aussi de la chaleur à l'extérieur. Donc, on se nuit à soi-même, parce que dès qu'on sera sorti de la bulle, eh bien, on aura retrouvé la chaleur commune qui détraque le climat. J'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup aimé, ça a été dit aussi, et ça se dit de plus en plus, et je m'en réjouis, qu'il faut un contrôle, et que ce contrôle des communs, il faut qu'il passe, il faut qu'il soit, il appartienne à la population. Et il faut donc gérer, et pour gérer, il faut quand même avoir les idées claires. Pour moi, gérer, c'est pas seulement... mettre sur pied des montages bureaucratiques de plus en plus compliqués pour faire face à des tas de situations différentes. Pour moi, il faut carrément avoir dans sa tête deux grands domaines. Bon, j'ai promis de citer Dante. Donc Dante disait, mettez vos désirs dans les biens qui s'accroissent dans le partage. En effet, il y a deux sortes de biens. Il y a les biens qui diminuent dans le partage, et là, il faut être très équitable, très parcimonieux, très, très économe, et puis se contenter soi-même de peu. Et puis, il y a les biens qui s'accroissent dans le partage, le rire, l'intelligence, toutes les informations. Quand vous donnez une information, vous n'êtes pas appauvri, elle vous revient plus riche. Alors, la parade du capitalisme qui veut partout des inégalités, c'est de dire ben, on va payer bien cher les gens qui vont nous donner de bonnes informations. Je pense que c'est complètement pervers. On privatise des choses qui appartiennent vraiment à tous. Mais la solution pour sortir de ça, c'est évidemment, comme je ne sais plus comment tu t'appelles, les logiciels libres, Frédéric, c'est de dire qu'il faut en effet un revenu commun. On ne va pas pouvoir donner de son temps, parce que le temps, malheureusement, il est quand même limité. Si on n'a pas un revenu commun, c'est vers ça qu'il faut vraiment aller pour que les communs soient vraiment des communs.
Merci. C'est intéressant, cette idée. Rapidement.
Bonjour. Je m'appelle Jenny Buor. Je représente... Enfin, je casse le matériel pour l'instant. Je représente le collectif Monnaie Locale Complémentaire 86 sur la Vienne. Donc, nous sommes un collectif qui travaille depuis début janvier sur la création d'une monnaie locale complémentaire. Donc, je ne vais pas vous résumer aujourd'hui ce que c'est une monnaie locale complémentaire, sinon ça va être un peu long. Si ce n'est en deux mots que le principe, il va être de redynamiser une économie locale sur vraiment un territoire donné. Donc, pour reprendre les champs qu'on a vus tout à l'heure, donc une ressource, eh ben, la ressource ici, ça va être la monnaie, donc l'euro. Donc l'euro dans notre système, il consiste à ce que vous puissiez aller dans un comptoir d'échange, échanger vos 100 euros contre une monnaie locale, qui ensuite ne pourra être utilisée que chez un nombre de producteurs, artisans et magasins divers. Donc là, on est vraiment sur l'idée de la communauté dont tu parlais, Gilles, puisqu'on va être des usagers adhérents d'un système et des producteurs donnés. Donc là, on est, je pense vraiment sur cette idée de communauté, puisque la monnaie locale, elle n'est pas utilisable partout. Puisque l'intérêt, c'est aussi de privilégier des producteurs avec qui on va partager une éthique au niveau social, écologique, solidaire. Par exemple, il est peu probable que vous puissiez aller faire votre plein d'essence chez Total en monnaie locale. Par exemple. Bon, après, c'est à définir tous ensemble. Donc la ressource, on a dit, c'est notre monnaie. La communauté, donc, elle est définie. Les règles sociales, elles sont définies aussi, puisque, donc, comme je vous le disais, on ne peut pas utiliser cette monnaie n'importe où. Il y a des règles à définir. Par exemple, est-ce que cette monnaie, on pourra la garder ad vitam aeternam, pardon. Est-ce qu'elle va perdre de sa valeur au cours du temps? Parce que souvent, une monnaie locale, elle a le billet, il a vocation à vivre pendant 3 mois, et ensuite, bon, il ne va pas s'autodétruire, mais il va perdre de sa valeur. Donc le principe, c'est vraiment d'avoir une économie qui est tournante, puisqu'on veut, en fait, c'est augmenter l'économie réelle au détriment de l'économie spéculative, puisque aujourd'hui, on sait que l'économie réelle, c'est 3% des échanges dans le monde, et tout le reste, c'est de la spéculation, c'est des fonds de pension, c'est la bourse, etc. Donc ce qu'on veut essayer de faire avec cette monnaie locale, c'est augmenter sur un territoire donné. Et pour faire le lien avec les communs, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une monnaie locale, on double la richesse. Donc le mécanisme, je vous l'explique en deux mots. C'est-à-dire que vous allez aller échanger vos euros contre une monnaie locale. Donc vous gardez la même richesse, effectivement. Par contre, cet argent, il va être placé en banque. Alors au niveau du choix de la banque, bien évidemment, ça sera la plus vertueuse ou la moins négative. Donc ça sera le crédit coopératif ou la NEF, selon les choix qui seront faits. Et donc cette banque, elle va utiliser tout l'argent que vous aurez échangé pour l'utiliser comme un fonds de garantie pour financer des produits locaux. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'avec tout cet argent que vous allez mettre, la banque, elle va utiliser cette même somme et elle va financer ça sur des projets fléchés, donc des projets locaux, solidaires, économiques, dont on aura nous-mêmes déterminé les critères. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose de commun et qu'on peut utiliser donc, pour soi en faisant ses achats, pour nous en faisant vivre des producteurs et des commerçants, et pour eux, c'est-à-dire financer d'autres projets qui sont peut-être un peu plus loin de nous. C'est bon ? Merci.
Merci. Est-ce qu'on peut voir cette monnaie locale complémentaire comme un commun des communs, pour le coup, un peu comme la connaissance ? Je ne sais pas. Donc Cyril, pour une manière de faire autrement, donc la filature de Ligugé, puis après Pierre Toutant, puis après...
Donc bonjour, donc moi c'est Cyril Chiessé, donc je suis un des cofondateurs du projet des usines nouvelles qui se trouve à Ligugé, donc à 10 minutes de Poitiers. Donc nous la démarche, bon, pour vous faire la genèse un peu rapidement du projet, on est à la fois copropriétaire de cette ancienne friche industrielle qui a été abandonnée pendant 30 ans. Ce qui a créé cette initiative, c'est qu'on a besoin de retrouver justement du pouvoir d'action, voilà, du pouvoir d'agir, et de le partager avec une sphère de personnes qui étaient dans la même posture. Donc on a racheté cette usine, on l'a réhabilitée pour en faire des espaces de travail, bureaux, ateliers, espaces partagés, jardins partagés, ateliers collaboratifs. On a mis en place différents dispositifs pour justement collecter de la donnée, partager du savoir et tout un tas d'autres sujets. Je vous la fais courte, hein, c'est assez superficiel. Mais donc voilà, c'est cette démarche générale en fait qui fait qu'on mélange à la fois du bien privé, des démarches collaboratives, et on essaye de faire en sorte qu'on crée de la valeur ajoutée aussi. Donc il y a un modèle économique qui est en cours de construction, et on construit avec les différentes composantes du projet qui sont soit des habitants, des locataires, soit des membres de l'association, soit des partenaires financiers privés. Voilà, donc on essaye de rebrasser un peu les cartes et d'essayer d'en déterminer des nouveaux cheminements voilà, à travers différents, différents biens communs potentiellement. Donc voilà, je pourrais après avec vous essayer de développer un petit peu plus ce qu'on pratique sur le terrain, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on se retrouve énormément dans tout ce qui a été évoqué auparavant à différents endroits, donc environnemental, économique, sociétal, technologique, etc., etc. Voilà.
Merci Cyril. Donc Pierre pour les... Oui, on l'applaudit aussi. Bon. Pierre pour les Regrattiers. Donc je vous rappelle que la fête a lieu aujourd'hui. Donc vous pouvez y aller après.
Donc moi, je suis aussi représentant pour les Regrattiers. Alors, je suis juste un simple adhérent de la Regratterie, mais vu qu'ils sont tous mobilisés là-bas pour organiser l'inauguration, ouvrir les ateliers, ouvrir tout l'espace et puis organiser la fête de ce soir, du coup, ils m'ont un peu désigné. Et donc, après, pas pour rien, parce que l'idée au démarrage de la Regratterie, on était... avec Franck, du coup, qui a démarré le projet, on était une dizaine à discuter de ces espaces-là, des recycleries, c'est des choses qui existent dans d'autres communes, dans d'autres villes. Et on s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de parler de ça et de le proposer. Donc on a commencé par des actions dans la rue de la Regratterie, donc à Poitiers, où on a fait comme les Regrattiers à l'époque... je ne sais plus quelle époque exactement, je ne suis pas historien, mais les Regrattiers, c'était des personnes qui allaient chiner dans la rue les choses que les gens jetaient dans la rue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas de... Donc, ils récupéraient dans la rue les objets, et il est transformé, il est valorisé, il est utilisé. Et donc, historiquement, c'est resté la rue de la Regratterie. Et donc, on a fait quelques actions comme ça où on s'est posé sur la place de Notre-Dame à récupérer plein de choses des magasins, des habitants. Alors, frapper à la porte, vous n'avez pas des choses à donner. Et du coup, on a construit une œuvre éphémère avec du carton, avec des objets, pour un peu sensibiliser à tous ces objets qu'on jette et qui potentiellement pourraient avoir une deuxième vie. Et puis on a démarré un peu comme ça. Et donc voilà, pour vous expliquer la Regratterie, en quelques mots, c'est donc Franck qui m'a écrit un peu ces choses pour que ça soit un peu cadré. Sinon, j'en raconte pendant des plombes. Et donc la Regratterie, c'est une quincaillerie avec des matières à transformer, à réparer, à réinventer. Une multitude d'objets destinés au rebut, à la poubelle, qui sont réutilisés. Et c'est aussi un lieu qui a un lien entre les gens détenteurs d'un savoir-faire et qui veulent échanger, le transmettre. Dans l'idée, c'est que vous pouvez ramener des objets, vous pouvez ramener aussi du savoir-faire, vous pouvez ramener des compétences. Et ce qu'il en sort, eh bien, c'est des objets qui vont être utilisés et remettre dans vos maisons. Voilà. Donc c'est un lieu commun où on met en commun les choses. Donc ça fonctionne comment ? Trois espaces, une galerie, parce que du coup... comme tous, un modèle économique, il faut quand même arriver à manger. Donc une galerie avec des œuvres qui ont été faites ou bénévolement par des adhérents ou par des salariés ou par des volontaires qui permettent de faire de financer le loyer, de financer ces choses-là. Donc une galerie ouverte au grand public qui permettent c'est des œuvres, des tables, enfin c'est des œuvres, des sculptures ou alors des objets du quotidien. Donc il y a des œuvres d'artistes comme des œuvres de récup qui peuvent être réutilisées telles quelles. Un bric-à-brac qui est un peu plein d'objets avec du... Enfin, ça ressemble un peu du Emmaüs, mais des fois avec de la réparation, enfin, avec des choses à retaper. Ou voilà. Et après, des ateliers par rapport à ce bric-à-brac, mais des ateliers, un atelier couture avec des super machines à coudre très anciennes très, et retapées qui permettent de coudre du gros tissu épais. Ça, c'est ce qu'on n'a plus aujourd'hui avec nos machines à coudre qui cassent rapidement. On a un atelier bois avec des choses des outils qu'on met en commun. Et un atelier ferraille pour aussi travailler la ferraille. Donc avec ces ateliers-là, on peut réussir à faire remettre au goût du jour des objets qui sont un peu vieillots. Et ensuite, combien de personnes ? Il y a un encadrant et puis après des volontaires, donc des services civiques. Et après, il y a aussi des bénévoles, des gens qui viennent partager leur savoir, bricoler, donner des choses. Voilà. Et donc les maîtres mots, inventer ensemble, l'intergénération et la chasse au gaspillage. Donc voilà. L'adresse, alors, c'est, comment vous expliquer, il y a une entreprise qui s'appelait Pain, P-A-I-N, qui était en haut de la rue, donc il y a rue Maillochon en bas, et la rue, je sais plus le nom de la rue en fait, c'est en haut. Alors, en haut de la rue de Montgorge, voilà, exactement. En haut de la rue de Montgorge, vous arrivez en haut de la rue de Montgorge et vous voyez le bâtiment, c'est un gros bâtiment industriel aussi, une vieille friche, qui était une menuiserie avant. Voilà. Je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais vous la faire passer. Voilà, je suis toujours allé qu'à vélo, je n'ai jamais regardé sur mon GPS.
Ce sera bientôt sur OpenStreetMap.
Oui, merci Pierre. Donc les déchets sont aussi des ressources pour les communs. Oui, vas-y.
En vous écoutant, je me suis dit qu'il y a évidemment un lien que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant fort, c'est entre l'économie circulaire et la notion de bien commun. Puisque si vous connaissez les bases de l'économie circulaire, il y a vraiment intérêt à y réfléchir, parce que du côté des capitalistes, on commence à y réfléchir aussi. C'est réduire les trois R. C'est les trois R. Réduire, réutiliser, recycler. Si on pense à réduire, ça veut dire que le bien commun, c'est la planète. Et que plus on extraira de saloperies pour faire du CO2, plus ça sera la catastrophe pour ce bien commun qu'est la planète. Réutiliser, ça veut dire que ça renvoie sur l'objet. Qui est une inclusion de savoir humain, savoir-faire humain, mais l'objet lui-même. Comme s'il y avait, c'est Bruno Latour presque, qui irait jusqu'à dire, comme s'il y avait un droit des objets. Ma cafetière, plutôt que je la jette, elle peut peut-être encore servir, pourquoi pas un droit de la cafetière. Je plaisante, mais ce n'est pas qu'une plaisanterie. Et enfin, recycler, ça veut dire que ce n'est plus ma cafetière, c'est les éléments de ma cafetière qui peuvent encore resservir. C'est ce que fait la nature, puisque dans la nature, il n'y a pas de déchets. Donc, tout est commun au départ dans la nature. Donc, il y a vraiment une réflexion à mener entre économie circulaire, qui est un enjeu énorme, un des aspects de l'écologie industrielle, et puis bien commun.
Merci. Gilles, une réflexion sur ces expériences et ces commentaires ?
Comme d'habitude, une réaction d'économiste. Je crois que moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'aspect prix, spéculation, capital. Je crois que c'est essentiel. C'est que, justement, on voudrait faire croire que ces communs pourraient être mieux gérés s'il y avait un prix. Que le prix est un indicateur, un signal de la rareté, un signal de l'intérêt qu'on porte à la chose. Et qu'on peut développer des marchés en termes d'offres et de demandes autour de ça. Or, je crois que justement, l'idée des communs, c'est l'absence de prix qui fait la valeur du commun et qu'on peut gérer les choses sans avoir cette notion de marché, de prix, d'offres et de demandes. Je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le commun, il y a quand même des propriétaires, mais c'est des propriétaires, tu as cité usus, fructus, abusus, c'est des propriétaires qui sont un petit peu particuliers parce que à la fois en termes de droit de retrait, en termes de droit de vente, de cession, etc., il y a des choses très précises qui sont fixées, et notamment l'unanimité. Mais surtout, l'idée, c'est que ce capital, il n'est pas spéculatif. C'est-à-dire que, et c'est ce que tu as cité dans les réserves impartageables, c'est l'idée qu'éventuellement, on peut récupérer ce qu'on a mis dans le bien, mais on n'en récupérera pas plus. Alors, on peut récupérer moins, parce que les réserves impartageables, elles peuvent également disparaître. Donc, on peut perdre son capital, mais c'est le jeu. Mais c'est-à-dire que vous prenez un risque de perte, mais vous n'avez aucun espoir de... Vous pouvez récupérer votre capital avec éventuellement une petite rémunération, un intérêt plafonné, etc. Mais surtout, vous ne pouvez pas spéculer là-dessus, vous ne pouvez pas gagner. Donc ça, je pense que c'est aussi important, cette notion de non-spéculation. L'idée qu'en effet, il faut contribuer quelque part au travail qui a été réalisé. Donc, on a parlé de revenu minimum, mais on a parlé aussi de réserve impartageable. Mais je crois que la notion d'absence de spéculation, d'absence de spéculation est importante. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire.
Attends, on va peut-être laisser. Oui.
80 rue Jean Mermoz à Poitiers. Et puis,
D'accord. Bon, des réflexions, des commentaires, des questions?
Oui, j'ai pas mal de questions. Ça fait longtemps que j'ai quitté la fac, c'était en 2000.
Parlez fort.
Pardon. Merci. Donc j'ai quitté la fac en 2000, j'étais en sciences éco, je m'apprêtais à faire éventuellement une thèse. Et puis, finalement, ça ne m'intéressait pas, je suis tombé malade, j'ai une sclérose en plaques. J'ai passé le CAPES d'économie, mais non, je n'ai pas entendu parler de ça, de ce qu'on a entendu ici. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais pour M. Kerr, je voulais savoir ce qu'était une autogouvernance collective.
Une autogouvernance collective. Alors, autogouvernance, je dirais, c'est-à-dire que les règles de gouvernance ont été fixées par la collectivité elle-même, c'est-à-dire que personne ne leur a dit ce qu'il fallait faire, ne leur a imposé des choses, donc ils se sont auto-déterminés sur les règles. Donc ça, c'est, je dirais, sur l'aspect autogouvernance. L'autogouvernance collective, c'est qu'à ma connaissance, mais là peut-être que Michel peut intervenir, on n'est même pas sur la structure d'association, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un président, un secrétaire, un trésorier dans les communs. On est sur quelque chose qui est, je ne sais pas comment on peut le qualifier... c'est même pas ouais, collégial, mais il n'y a pas de collège. donc je dirais, c'est vraiment ça qui est spécifique. On n'a pas de hiérarchie élective. C'est même pas une question de hiérarchie du capital. Il n'y a même pas cette notion de hiérarchie collective. Donc on est sur un collectif qui fonctionne d'une manière très... Vraiment, dans l'économie sociale et solidaire, on dit souvent une personne égale une voix. Hein. Mais là, c'est une personne égale une voix, mais en plus, il n'y a même pas d'élection de... Je sais pas comment tu dis.
Ça renvoie à des systèmes multiples. Hein. Ça renvoie évidemment à un petit livre que je vous recommande, là, que m'avait fait découvrir Thierry Gaudin quand il était venu à Poitiers, c'est La Palabre africaine. La Palabre, c'est on va prendre le temps pour se mettre d'accord. Ça veut dire qu'on va chercher le consensus, mais une construction d'un consensus, ce qui est long, ce qui suppose vraiment de réfléchir, etc. Et tout. Le deuxième mode, évidemment, qu'on connaît le plus, c'est l'élection. Moi, j'ai fait partie, c'est une histoire que j'aime bien raconter, parce que c'était vraiment, j'en suis heureux, quand on a décidé de transformer en 1993. Il existait dans toute la France des GRCMA, Groupement Régional de la Coopération, Mutualisation, Mutuelle et Association. Et nous avions la chance d'avoir parmi nous l'un des grands dirigeants de la Massif, on ne va pas le nommer, peut-être certains le reconnaîtront, qui a dit « ras-le-bol de ces GRCMA, c'est trop compliqué, on ne comprend rien, il faut faire une chambre régionale de l'économie sociale, une CRES ». Il a interrogé Paris, où il y avait une coordination nationale, qui a dit « non, c'est trop tôt ». Mais comme ce n'était pas le genre à obéir aux ordres, il a dit « je vous propose qu'on le fasse quand même ». On est passé au vote, on était 10 autour de la table, à 6 voix contre 4, on a décidé de faire une CRES. Moins d'un an après, tous les GRCMA sont devenus les CRES de France. Donc, c'est toute la question du vote et du respect des minorités ou non. Autre système qui est relativement lourd et discutable, c'est la question du veto, qui bloque aujourd'hui l'Europe, qui bloque le Conseil de sécurité à l'ONU, etc. Alors, quels sont les systèmes qu'on peut imaginer en dehors de l'élection? Ça invite à réfléchir. Il y a un très beau livre d'un jeune politologue hollandais qui s'appelle David Van Rijkboer. Le titre, Van Rijkboer, hein. Le titre s'appelle « Contre les élections ». Alors, le titre est très provocateur, mais je vous invite à le lire parce que d'abord, il est court. Et surtout, il montre qu'il y a des recherches en cours dans une dizaine de pays du monde, Canada, États-Unis, Australie, Allemagne, etc., sur quel système peut-on imaginer à côté ou à la place, suivant les instances, du simple fait électoral, avec tirage au sort des citoyens, formation des citoyens sur le problème, intervention pour construire la proposition, intervention pour la voter, intervention, donc des instances différentes, intervention pour la surveiller et la réguler. Vous voyez, il y a des recherches en cours. Mais les choses sont extrêmement multiples dans ce domaine-là.
Oui, c'est David Van Rijkboer.
Tout est devant nous.
Il insiste beaucoup sur la complémentarité des,
oui,
des systèmes.
Le mélange des systèmes. Oui. Oui.
J'ai cherché il y a 2-3 jours l'étymologie du terme crise. Et ça veut dire changement. Ouais. Donc, je soumets l'approbation.
Ouais. Oui, je voulais juste revenir en fait justement sur le fait de la gouvernance là. On a parlé d'autogouvernance. Je sais que nous, il y a parfois dans les communautés logicielles libres, il y a une gouvernance qu'on appelle la douocratie, c'est-à-dire que la démocratie de celui qui fait. Bien sûr, on n'est pas sur le fait d'un veto avec un temps de guerre. On est sur des choses de constructifs, pas de destruction. Mais les idées, c'est bien, le consensus, c'est bien. Mais surtout, si c'est fait, c'est mieux.
Bien sûr.
Dans le même genre, dans l'économie sociale, hein, c'est la question aussi du quorum.
Bien sûr.
Est-ce qu'il n'y a que les présents qui ont le droit à la parole et qui doivent être les présents et quelle est la proportion des présents, hein, c'est...
Quelqu'un veut intervenir ?
Bonjour. Vous avez, entre autres, resitué un peu dans le temps des différentes considérations des communs. Et je me disais que dans l'espace, il y aurait sûrement plein de choses à apprendre ou que vous connaissez sûrement déjà dans des pays du Sud. Alors, sur l'histoire des consensus, j'ai vécu dans un village en Afrique en travaillant avec une ONG. Apparemment, je le disais ce matin à une réunion, il y avait consensus, mais ce n'était pas consensus parce que les personnes qui s'appellent captifs entre eux, qui sont des descendants d'esclaves qui ont racheté leur liberté, n'ont pas le même droit au chapitre dans la réunion du village que les nobles et les autres habitants du village. Donc, apparemment, pour nous, gringos blancs, vu de l'extérieur, c'est super, ils partent de la réunion tous d'accord. C'est pas si évident que ça. Une autre région du monde, dans les Andes, au Pérou, j'ai travaillé 3 ans. On était à 3600 mètres d'altitude. Et une fois par an, il y a des réunions tous les mois, des assemblées communal tous les mois, jour fixe, que ce soit un dimanche ou en semaine, c'est par exemple le 16 dans Quignota, par exemple, un village là-bas. Et il faut qu'il y ait un représentant de chaque famille systématiquement à cette réunion. Tous les habitants du village, toutes les familles sont représentées. Ça commence par la lecture du compte-rendu de l'Assemblée générale du mois précédent.
Bien sûr.
C'est un secrétariat tournant, c'est une présidence, une prise d'animation tournante. Donc au niveau de l'apprentissage de la vie commune, c'est intéressant. Et une des réunions mensuelles sert à définir pour l'année suivante où vont pouvoir pâturer les animaux, parce que c'est un peu comme les photos en Angleterre, il y a des enclos faits avec les pierres que les paysans mettent pour faire des petits murets, mais les animaux, ils passent par-dessus des fois, et puis ils vont bouffer s'il y a des patates dans les environs. Donc ils définissent ensemble les 2/3 de la commune qui vont être accessibles au pâturage, et c'est-à-dire le tiers qui va rester pour les cultures. Ça se gère de manière très saine, très sereine. On s'est rendu compte que s'il y avait des conflits, il ne fallait surtout pas faire intervenir le système judiciaire occidental avec les universitaires formés ou déformés à la capitale, parce qu'on abîmait plutôt qu'autre chose le fonctionnement. Et un autre exemple, c'est les faenas, dans tous les Quechua. Quechua, oui, je rappelle que ce n'est pas qu'une marque chez Decathlon, c'est une ethnie entre la Colombie et puis la Patagonie, quasiment, avec des diversités, des variantes de langue. Mais les Quechua utilisent un mot qui est la faena, qui est un jour de travail collectif dans la communauté, dans le village. Des communautés, mais ici, ça peut des fois avoir une autre connotation. Communiste, ça fait peur à certaines personnes. Il faut qu'il y ait aussi là une personne de chaque famille qui donne un coup de main. C'est bénévole, tout le monde y participe. Alors ça peut être de refaire une partie du torrent qui a abîmé un peu une rive. Mais ça peut être aussi de refaire un chemin. Alors après, c'est un peu l'effet pervers. On refait le chemin d'accès. Nous, on était à 3600 mètres. C'était 8 heures en roulant vite pour aller à Cusco et 42 heures en bus par temps de pluie. Donc c'est assez isolé. Et la route, le chemin en pierre, ils le refaisaient sous forme de faenas. Mais l'inconvénient, c'est que une fois que le camion pouvait passer facilement, c'était encore plus de produits. Le Coca-Cola, vous trouvez dans n'importe quelle boutique. Moi, j'y travaillais il y a 30 ans, mais on trouvait du Coca-Cola dans n'importe quel petit commerce de la communauté jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Donc, c'est une incitation à la pénétration du marché, produits manufacturés, etc. Et ce système de faena, ce qui remonte à une période Inca, fonctionnait encore il y a 30 ans parce qu'on était dans une région encore assez isolée. C'était pas du tout le téléphone. Hein. Moi, le télégramme le plus grave que j'ai reçu, il a mis 8 jours pour venir parce qu'il passait par le bus hebdomadaire. Donc là, les choses font que on va pas leur reprocher d'être dans plus de relations avec ce qui se passe dans le monde, mais les systèmes traditionnels de régulation, de fonctionnement collectif pour gérer des espaces communs ou des biens communs. Sur la gestion de l'eau, par exemple, là, c'est pareil avec les Touaregs dans les oasis. C'est tant d'heures d'utilisation du cours d'eau dévié vers leur jardin. Et puis après, il faut passer le relais à l'autre. Et ça se gère de manière assez impressionnante, quoi. Par des systèmes de... Il peut y avoir des conflits, mais ce sont des personnes choisies au sein de la communauté qui disent, qui statuent sur les conflits. Et là, quand Gilles, tu disais par rapport à David Bollier, en conclusion, un peu une autogouvernance collective responsable fondée sur des arrangements durables, je me disais, oui, tiens, par rapport à l'énergie en France avec EDF, comment ils verraient une démarche d'autogénomie, etc. Et il ne faut pas trop critiquer parce qu'il y a quand même, enfin, c'est plutôt quand il faut espérer, il commence à y avoir en France, en Allemagne surtout, aux Pays-Bas, etc., des habitants qui se regroupent en disant, pourquoi on a du vent, on installe un parc éolien et on le gère. Et ils arrivent à... Mais ça, c'est parce que c'est des pays où... Ça s'est fait en Bretagne récemment. Hein. Donc, c'est même possible avec EDF. Et ça leur apprend à gérer une ressource vent. Et ils sont contents quand il y a du vent. Comme moi, je suis content quand il pleut. Ça remplit mes cuves d'eau pour économiser au robinet.
Juste deux réactions par rapport à ça. Enfin, une toute première qui, en effet, c'est l'intérêt d'Elinor Ostrom, c'est qu'elle allait voir sur tous les continents des expériences très différentes. Juste deux réactions. Sur le premier aspect, ce n'est pas forcément qu'il y a consensus, que tout le monde a vraiment participé à les décisions. C'est un peu l'expression « qui ne dit mot consent ». Et j'aurais beaucoup à dire sur ce qui se passe dans les assemblées générales de banques coopératives où les résolutions sont votées à 99,99%. Donc on pourrait dire que c'est l'unanimité, c'est tout à fait conforme à ce que je viens de raconter. La réalité n'est pas du tout... la réalité et les conséquences ne sont pas du tout celles-là. Donc en effet, c'est pas simplement parce que la décision est unanime et consensuelle que forcément ça a été très démocratique ce qui s'est passé en amont. Je ferme la parenthèse, mais pour dire que ce que tu racontes sur l'Afrique est aussi valable en France et dans des grosses sociétés actuelles et qui se revendiquent de l'économie sociale et solidaire. Deuxième remarque, en t'écoutant sur le deuxième exemple, sur l'Amérique latine, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé et je crois qu'il est important, c'est la question de la confiance. C'est la confiance entre les membres sur justement les règles, sur l'utilisation des règles. Et cette confiance, elle passe à la fois par de l'interconnaissance. Ça nécessite que les personnes se connaissent déjà, mais ça passe aussi par l'apprentissage. Et ce qui m'a fait songer à ça, c'est que j'ai eu un étudiant l'an dernier qui était en Colombie sur un exemple de banque communautaire, enfin plutôt de style tontine, dans un quartier avec des indigènes. Et il n'y avait pas du tout de confiance au départ. C'est-à-dire qu'ils ont accumulé du capital, ils ont mis en commun de l'argent, mais ils avaient tellement peu confiance que c'était un système de caisse avec double clé. Les gens avaient des clés différentes parce qu'on pensait qu'il y en avait un du groupe, c'était des groupes de 8-10 personnes, qu'il y en avait un qui allait se barrer avec l'argent. Et donc la confiance, elle a été progressive avec des règles à respecter en termes de... Il s'agissait d'économiser chaque... je crois que c'est une réunion par semaine, d'amener chaque semaine, etc. On mettait dans la caisse collective avec le système de double clé et un... voilà, donc double serrure, mais double clé, et les détenteurs ne sont pas les mêmes. Et puis, il se trouvait qu'il y avait une ONG dans le coup, et donc un Européen qui participait. Et à la fin, au moment de retirer l'argent, il fallait venir avec je ne sais plus quoi, sa carte d'identité, quelque chose comme ça. L'Européen est venu sans que sa carte d'identité, et donc il a respecté les règles, il n'a pas pu récupérer son argent. Et la confiance est arrivée progressivement, et donc je crois que ça, c'est extrêmement important, cette notion de confiance. Et je laisse réagir...
Il nous reste 10 minutes.
Très court. Ce qui est en jeu là, évidemment, c'est la question de construire aujourd'hui, il s'en est fait hier, mais ça ne peut plus être les mêmes, de nouveaux rapports intelligents entre l'individuel et le collectif. Le collectif n'a pas vocation à écraser tout l'individuel, pas plus que l'inverse. Et donc c'est là où on a des choses nouvelles à construire. Je pense simplement, dans un groupe collectif, l'existence d'une vieille tradition qui est le bâton de parole, que moi j'ai imposé un peu dans la NLP, quand on est trop nombreux, parce qu'il y a des bavards qui n'écoutent pas les autres, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, si vous connaissez les méthodes de la sociocratie, il n'y a pas forcément un bâton de parole, mais il y a le fait qu'on ne peut pas parler tant que la parole n'est pas arrivée à soi-même. Les Québécois, là aussi, ont inventé des choses formidables. Le groupe nominal québécois, on l'a beaucoup utilisé, nous, quand j'étais à Poitiers ou Créaille, qui veut dire, groupe nominal veut dire un groupe qui n'a de fait que le nom, mais qui n'a pas de dynamique de groupe. Ça veut dire qu'on démarre toujours par un travail d'expression individuelle avant de commencer à construire du collectif pour être sûr que le collectif qu'on va construire transportera un peu d'individuel de chacun. Mais pas tout l'individuel de chacun, sinon les autres ne s'y retrouveraient pas. Donc voilà, il y a un enjeu énorme ici. Et sur la confiance, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que c'est un enjeu évidemment énorme. J'ai lu il n'y a pas longtemps, et j'aime beaucoup l'éthologie, moi je crois que les animaux, on en fait partie, ont des choses à nous apprendre. Les éthologues les plus contemporains ont découvert cette chose absolument étonnante chez les geais.
on est chez les geais. Voilà, ce petit animal, ce petit oiseau un peu difficile à observer. Ils ont laissé des jeunes geais vaquer comme ils le voulaient dans un environnement, etc. Et ils ont remarqué que certains geais allaient voler les œufs des autres. OK. Bon. Ils ont isolé cette population de geais voleurs. Et ensuite, au sein des deux populations ainsi isolées, ils les ont remis dans un environnement en se demandant, quand il arrivait dans leur environnement, quelqu'un d'extérieur, un autre oiseau, un humain, quels étaient les plus méfiants? Eh bien, les plus méfiants, c'était toujours les voleurs. Étonnant, non? Comme si quand on trahit la confiance, évidemment, on est plus porté à penser que tout le monde va faire pareil. Alors, ça joue aussi dans l'autre sens, hein, bien sûr. Ça s'appelle la confiance.
Merci. Et le temps est un commun pas facile à gérer.
Michel, moi j'apprécie tes références éthologiques parce que moi je les utilise constamment. Elles sont tellement précieuses. Alors, première remarque, moi je pense qu'il faut porter une attention particulière à l'expérience des peuples anciens. Parce que notre ami a cité l'expérience de la vallée sacrée, c'est l'ancien territoire des Incas près du Machu Picchu. Et c'est vrai que là, il y a des expériences qui sont toujours d'actualité sur la journée de travail par semaine gratuite, c'est toujours d'actualité.
Ça s'appelait les samedis communistes. Hein,
dans bien sûr. Et puis également, il y a un marché qui est à Chinchero où il n'y a pas de monnaie. On échange des feuilles de coca contre des tomates. Il n'y a pas d'argent. Donc ça survit. Et en allant voir chez les peuples anciens, ils ne sont pas si anciens que ça, hein, eh bien on a des très bonnes expériences. Je pense que dans le Pacifique, il y a les trop brillants aussi qui échangent des biens sans monnaie aussi depuis très très longtemps. Alors, la deuxième chose, moi, je suis allée pour préparer cette journée sur Internet. J'ai tapé plein de trucs, communs, il n'y avait rien. Échange, je suis tombée sur des sites juridiques, sur les testaments, les machins. Et puis, échange d'expérience, ça commençait à être mieux. Mais il y a une foule d'expériences en France. Il y a une foule. Donc, en cherchant patiemment sur Internet et les réseaux sociaux, vous allez trouver énormément de choses qui sont faites. Donc voilà, pour donner des conseils, allez voir. Et puis, sur la première intervention, je ne sais plus qui l'a faite, c'est M. Kerr. À propos de la Grande-Bretagne, qui était un modèle avec ses patrimoines communaux, etc. C'était ça, ouais. Avec ses communaux. Mais moi, j'ai quand même le souvenir de l'expérience inverse dans le sud patagonien. Chiliens et Australiens, il y avait des Indiens autochtones depuis très longtemps, les Tewelch et les Lakalouf, qui vivaient de la chasse et de la pêche et de la chasse au guanaco. Et sont arrivés les colons européens qui ont mis des clôtures partout, qui ont mis des moutons et qui ont détruit méthodiquement tous les Indiens du secteur. Ce qui n'a pas été fait dans le nord de l'Amérique du Sud, mais là, ils ont été détruits méthodiquement.
Oui, ce n'était pas du tout un modèle, hein, Jésus-Christ, c'était plutôt un anti-modèle, les murs qui ont été construits. Hein. Donc c'est le résultat, hein, c'est ce que dit Elinor Ostrom, c'est que du point de vue environnemental, ça n'a pas été le succès que soulignait Gareth Hardin, que ça a été parfois l'inverse.
Historiquement,
la surexploitation, l'idée de Gareth Hardin, hein, c'est-à-dire à travers la privatisation, il n'y aura plus de surexploitation parce que la surexploitation, c'est détruire son propre bien. Et c'est l'inverse qui est arrivé. Hein. Donc, je n'ai pas du tout parlé de modèle.
une toute dernière question, s'il y en a.
Oui, je reviens à l'instant là, sur ces discussions sur les commons. Là. Souvent, la discussion elle est anglo-saxonne, avec beaucoup d'auteurs anglo-saxons. Et on repart de l'histoire anglaise, où précisément, tous les communaux, à un moment donné, l'aristocratie foncière a réussi à éliminer les petits paysans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, et malheureusement, on ne le met pas assez en avant, l'histoire n'est pas la même, à savoir qu'au XVIIIe siècle, le problème s'est posé d'éliminer les biens communs et les petits paysans. Et les petits paysans se sont révoltés. Et toute une partie de l'histoire de la Révolution française, c'est précisément qu'ils ont, ils ont lutté et ils ont, dans l'ensemble, gagné. C'est-à-dire que la petite propriété a été préservée en France au XIXe siècle, et que d'ailleurs il y a un certain nombre d'économistes qui expliquent de façon fausse que c'est à cause de ça que la croissance économique française a été ralentie au XIXe siècle. Alors par exemple, l'exemple a été donné des Landes, moi je connais assez bien les Landes, jusqu'en 1857, tout le sud de la Gironde et tout le nord du département des Landes étaient en fait des propriétés communales des communes. Et ça marchait pas si mal que ça. Et en 1857, Napoléon III a réussi à privatiser l'ensemble de la région. Hein. Bon, donc ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il y a une tradition en France de commons qui n'est pas du tout inintéressante et qui, est par certains aspects plus intéressante que la tradition anglo-saxonne, et on pourrait
Faire une blague qui n'en est pas tout à fait une, n'oublions pas qu'avant le MEDEF, il y a eu le MODEF. Et le MODEF, c'est à la fois le Parti communiste et la défense de la petite exploitation familiale. C'est dans notre histoire. Voilà. C'est vrai, il existe toujours. Oui.
J'ai affiché un site, là, c'est pour répondre à Marie aussi, qui s'appelle Remix the Commons, qui est bilingue, et plein de vidéos, de contenus, d'expériences, de textes, etc., etc. Une information, puis après je donne des informations sur la suite.
C'est plus ou moins lié à cette conférence, mais j'ai vu jeudi ou vendredi sur France 3, un documentaire sur qu'est-ce qu'être français, et un autre truc après, c'est un replay pendant 30 jours. Si ça vous intéresse, c'est intéressant. Et tous les Français...
Un petit mot et puis on... Gilles ?
J'ai envie de vous raconter une histoire qui m'a tellement étonné.
Vite fait. Hein.
Oui, très court. Ça se passe à Cognac. Les maisons de Cognac, Martel, Hennessy, les gros, quoi, immenses, qui dominent la chose depuis 300 ans, quasiment 250 ans. On est en 1986. À un moment donné, les multinationales mondiales arrivent et tentent de s'en emparer. Martel, 45 actionnaires, tous de la famille, tenaient l'entreprise. Je connaissais beaucoup de salariés, y compris des copains, mais qui étaient très, très, très à droite. Moi, j'étais plutôt très, très, très à gauche. Et on s'était rencontrés par l'informatique. Et puis, le jour où Martel a été vendu à Seagram, grande multinationale québécoise ou canadienne, parce que les actionnaires se sont dit « ça ne nous rapporte plus assez, si on vend tout, sauf le PDG et son fils, qui, eux, étaient dedans, ils voulaient la garder, mais tous les autres les ont mis en minorité, ils ont vendu Martel. » Eh bien, vous n'imaginez pas comment le personnel de Martel, jusqu'au cadre quasiment supérieur, ont eu le sentiment que le ciel leur tombait sur la tête, parce que pour eux, c'était un bien commun. C'était inégalitaire, mais c'était Martel. Alors on y rentrait, on n'avait pas tous le même sou, etc. Tout, c'était un bien commun. Le fait qu'ils découvrent que les actionnaires pouvaient détruire la chose et le vendre, on est passé de 800 salariés à 300 en moins de 2 ans, le ciel leur est tombé sur la tête. Ça veut dire que cette notion quand même de bien commun, même si ce n'était pas vraiment un bien commun, cette notion d'entreprise, elle mérite d'être creusée, quoi.
Merci. Gilles, un dernier mot.
Ce sera très bref, c'est sur le côté anglo-saxon. Le premier des communs pour les humains, c'est la langue. Et donc la langue française, vous pouvez appliquer ressources, communautés, règles d'usage. Et ça me paraît un commun essentiel.
Merci. Donc, on va clore notre table ronde. Un mot sur la suite du festival. Donc au niveau national, allez sur le site Le Temps des communs, où l'ensemble des manifestations sont recensées. Ici, demain, vous pouvez aller, il y a une table ronde, une journée autour de la problématique de la créativité et du changement climatique, organisée par Primaterra. Ça se passe de 12h à 19h au TAP, au météo, en fait, plus précisément. Nos amis du Libre font quelque chose au lycée Aliénor, mais pour le coup, c'est réservé aux élèves, et quelque chose de public autour de la photographie, art et patrimoine, des communs à partager. A priori, c'est jeudi 15 octobre à l'UFR Sciences Humaines et Arts. Je dis a priori parce que le lieu, il y avait une incertitude, mais je pense que ça va se dérouler là-bas, de 17h à 18h. Voilà. Bon, mais je pense que la prochaine... Et le lancement et l'ouverture de la regretterie, vous pouvez y aller jusqu'à pas d'heure plus tard. Voilà, je vous remercie.